Bienvenue à une autre émission de La Pensée réaliste. Vous êtes en compagnie de Sylvain Vanier et Marc Bouin, thérapeutes de pensée réaliste, qui vous convient à une heure de découverte d'outils simples pour vous aider à atteindre un mieux-être et un bonheur au quotidien.
Tout le monde, tous et toutes, bonsoir Marc.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous et à toutes.
Ça va bien?
Super, toi?
Ouais, pas si pire, j'ai survécu. Finalement, écoute, la semaine dernière, on n'a pas fait d'émission. Je sais pas ce que Yves a fait pour boucher le trou. Un trou béant parce que les gens étaient... Écoute, il y en a qui sont venus frapper à ma porte pour me dire « Comment ça se fait qu'on n'a pas d'émission ce soir, là, à sauver nos âmes? » Mais mais c'est ça, j'ai eu une grippe solide. Fait que j'ai perdu la voix, ma belle voix radiophonique qui n'est pas tout à fait revenue ce soir. Ah, mais j'ai tous mes esprits pour le plus qu'il me reste à mon âge. Yes, sir. Fait que, bienvenue à une autre émission de La Pensée réaliste. On va faire ce bref le départ parce que je pense qu'on a une triste nouvelle. Puis je vais laisser Marc, qui est mon co-animateur, qui est aussi camionneur dans sa vie professionnelle. Marc, je te laisse la parole.
Oui, c'est ça, triste nouvelle. Il y a un camionneur qui est décédé hier soir dans un accident. Je pense que c'est à Petite-Rivière-Saint-François. Aux dernières nouvelles, en tout cas, le nom du camionneur, c'est Marc Thibault, je crois. Puis, c'est un camionneur d'une trentaine d'années là, qui est décédé. Là. Juste, on voulait prendre un petit temps pour rendre hommage ou envoyer nos sympathies à toute la famille et les proches de Marc Thibault. Puis, c'est ça, là. Yves, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais...
C'est toujours triste de voir ça. Puis ce qui est dommage, c'est que il y en a de plus en plus. Je sais pas si c'est une tangente qui va se diminuer. Là. On le souhaite en tout cas, parce que c'est toujours. On s'entend que ces gars-là et ces femmes-là travaillent pour le bien-être de tous, de la communauté, parce que c'est des transporteurs de tout ce qu'on a de besoin tout le temps. Donc, c'est un autre qui est tombé au combat. Puis, ça reste toujours triste. Surtout, peu importe l'âge, mais à 30 ans, on se doute que c'est un jeune père de famille. Fait que c'est encore doublement poignant dans ce temps-là. Surtout qu'on sait qu'ils font des sacrifices, sont jamais là. Sont tout le temps partis. Donc, les sympathies à la famille.
Oui. C'est effectivement un métier difficile qui demande beaucoup de présence, là. Effectivement. Marc, voulais-tu rajouter quelque chose?
Non, tout a été dit pour moi.
Tout a été dit, nos sincères condoléances à la famille et aux amis. Mm-hmm. Marc, on s'est dit, la nouvelle approche de la pensée réaliste, c'est d'avoir des invités qui militent pour l'humanisme. D'accord. Et puis, il y a quelques semaines, on avait Karine Lapointe qui est pour SSPT chez les camionneurs. D'accord. Puis, Karine me référait à des tas de bonnes personnes comme moi. Bonnes et mauvaises marques, on sait que ça n'existe pas. Mais à des personnes qui sont impliquées dans l'humain, qui ont beaucoup d'expérience, ou du moins qui ont une expérience personnelle à partager, ce qui met encore plus de valeur là sur l'approche. Et puis, écoute, je vais immédiatement dire un gros bonsoir à notre invitée ce soir, qui est Jessica Hinz. Bonsoir, Jessica.
Bonsoir, Sylvain.
Bonsoir.
Bonsoir, Marc, oui.
Jessica, écoute, ce que je vais faire, c'est avant même de parler de son implication puis de son congrès, je vais poser quelques questions pour qu'on puisse connaître un peu plus qui est Jessica. Jessica, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu qui tu es. C'est quoi ton parcours dans la vie, là? Pas professionnel, pas par rapport à ce que tu fais là aujourd'hui, mais ton parcours personnel.
Mon parcours personnel, femme de 31 ans maintenant, maman de deux enfants. Je vais parler un peu de mon professionnel pareil parce que ça rentre dans mon personnel. Je suis une ancienne militaire, j'ai été la plus jeune militaire au Canada en 2004. Je suis rentrée le jour de mes 16 ans et je suis restée 2 ans. Ensuite, je suis sortie. Ça, on en reparlera plus tard des pourquoi et tout ça. Je me suis recyclée par la suite comme infirmière auxiliaire. Donc, de métier, je suis infirmière auxiliaire et par mon parcours de vie et tout ça, j'ai créé deux entreprises qui viennent en aide, aux gens, à l'humain.
OK. Bon, c'est génial, ça.
Oui.
On va commencer par le début, hein, parce que tu me donnes ton petit parcours de vie. Moi, je vais tout de suite attaquer, là. Ben, écoute, on va aller voir le côté militaire, si tu le permets. Tu dis que tu as été militaire à l'âge de 16 ans. C'est quand même jeune, là.
Oui.
Je savais pas qu'il pouvait engager, parce qu'on dit pas embaucher, hein. Dans le cas des militaires, on dit engager. Il faudrait dire ça à Tim Horton, qui marque qu'on engage aujourd'hui. Wow! Qui font la guerre au beigne, probablement. Mais c'est ça. Il faudrait leur dire, hein, Jessica, il faudrait faire la différence avec eux.
C'est pas le même engagement.
non, pas tout à fait, non. Donc, tu as été, si tu le permets, c'était à l'aise. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton expérience de militaire, 16 à 18 ans.
Oui, ben pour répondre à ta question que tu disais que tu ne savais pas qu'à 16 ans, il faut être dans l'armée. Mm-hmm. À 16 ans, tu peux être réserviste avec l'accord des parents.
OK.
Et moi, j'ai achalé mes parents fortement. Jusqu'à temps qu'ils disent oui, pour okay. que je puisse rentrer à 16 ans dans les forces.
OK.
J'ai vraiment aimé ça. Je suis restée là 2 ans. Par contre, la deuxième année, il m'est arrivé quelque chose que malheureusement, on voit un petit peu trop souvent chez les femmes dans l'armée. Okay. J'ai été agressée sexuellement par un père dans l'armée. Alors, j'ai décidé de quitter. Ce n'était l'ambiance de travail n'était pas adéquate pour moi. J'ai adoré mon expérience au niveau des forces, mais dû à cet événement-là, j'ai dû quitter. J'ai fait le choix de le quitter, je précise.
Tu as fait le choix, mais selon moi, tu as peut-être fait le bon choix aussi.
J'ai fait le bon choix, oui.
Pour ton mieux-être, ton mieux-être personnel, puis surtout psychologique, je présume. Là.
Exactement.
Si tu le permets, j'aimerais savoir si tu as eu de l'aide, justement, des forces armées suite à... Si les questions sont trop...
C'est correct.
Je veux dire, tu lèves la main, tu dis, Sylvain, on passe à d'autres choses.
C'est les forces qui n'aimeront pas ma réponse, mais c'est pas grave parce que je m'en cache plus. J'y vais maintenant. Okay. En toute honnêteté, ça l'a pris 13 ans. Avant que mon syndrome de stress post-traumatique soit reconnu par le système militaire, ancien combattant et tout ça. Donc, est-ce que j'ai eu de l'aide? Depuis que mon diagnostic est reconnu, oui, j'en ai. Mais avant ça, zéro pin-bar.
OK, 13 ans.
Oui.
13 ans, c'est aussi long. Est-ce que tu as eu des explications pourquoi ça a été aussi long de... d'arriver à un diagnostic?
Oui, je peux donner une réponse. Moi, je suis partie volontairement des forces et pendant un certain temps, j'ai fait ce qu'on appelle dans le domaine médical de la dissociation. Dans le fond, j'ai occulté cette partie-là. Moi, tout allait bien, tout était beau, mais j'avais des symptômes, mais je disais, oh, c'est pas grave, ça va passer, il se passe rien. Puis à un moment donné, ben j'ai crashé. Quand j'ai crashé, c'est que la dissociation s'est enlevée et j'ai tout mangé en pleine face, si je peux dire ça comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à aller chercher de l'aide, mais moi, je sais pas ce que je vis présentement. J'ai 17 ans quand je suis sortie des forces. Là. À 17 ans, tu comprends pas ça, puis on se le cache pas, la santé mentale, encore aujourd'hui, c'est tabou.
Mm-hmm. Oui, beaucoup.
Donc, ça a été très difficile pour moi d'aller chercher de l'aide. Oui, j'ai été consultée psychologue et tout ça. Malheureusement, en n'étant pas capable de mettre le doigt précisément sur le bobo parce que j'ai encore de la dissociation et tout ça, c'était difficile. En 2016 exactement, non, je vais y aller dans l'ordre. Le 7 mai 2010, je suis enceinte de 6 mois et tout ça, et finalement, à la naissance prématurée et tout ça déclenché, mon premier garçon est décédé. Je retombe dans un tourbillon d'émotions, et là, je ne me comprends plus. En 2010, je vais chercher de l'aide autrement, puis tout ça, mais c'est normal, t'as perdu un enfant et tout ça. Oui, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, je ne me comprends pas, aidez-moi. C'est resté comme ça. Moi, pendant ce temps-là, ben, j'utilise des techniques que moi, je connais, qui est la pleine conscience, la méditation. Essayer de voir le côté plus positif, et je dis pas d'être toujours heureux, c'est pas ça que je dis, là, mais le côté positif ne veut pas dire d'avoir des émotions désagréables ou de ne pas en avoir, mais de les vivre et de trouver le positif dans ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à trouver du positif dans le décès de mon fils. J'ai parti ma première entreprise suite à ça. Mais c'est pas de celle-là qu'on parle aujourd'hui. Mais je peux quand même en parler un peu, là. C'est la maison de l'ange Gabriel. Gabriel étant mon fils. J'ai parti une entreprise de soins palliatifs, maintien à domicile et entretien ménager. Donc, j'ai viré cet événement difficile en positif pour moi. Ensuite, étant toujours infirmière auxiliaire de métier, je travaille dans les hôpitaux et début janvier 2016, j'ai été attaquée physiquement par un patient. Et ce jour-là, en toute honnêteté, j'ai disjoncté. Pas fini mon chiffre, plus capable, plus là. Je suis partie à la maison. Le lendemain, pas capable de retourner travailler. Le jour d'après, je suis dans le stationnement. Je suis pas capable de rentrer. Là, ton boss t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je suis pas malade. Mais je sais pas ce qui se passe. Je suis dans l'auto, je pleure, je suis pas capable de rentrer. Mais là, franchement, Jess, là, c'était... Ben, c'est pas Jess, mais Jessica, excusez. C'est juste... c'est juste des coups, puis... Oui, j'ai des marques, j'ai des séquelles quand même, mais c'est pas si pire. C'est pas le premier code blanc que t'as. Code blanc dans les milieux hospitaliers, c'est un... Pour ceux-là qui écoutent et qui le savent pas, c'est un patient agressif. Je le sais que c'est pas mon premier, puis je suis toujours la première à aller aider et tout ça, mais là, ça marche pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis pas capable. Elle dit, t'es où? Je m'en viens te chercher. Fait qu'elle est venue me chercher dans l'auto. On est rentré. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai commencé mon chiffre, mon corps de travail. Et en plein milieu, je me mets à pleurer. Ça ne fonctionne pas. Je vais voir ma boss puis j'écoute, tu me remplaces, je suis dangereuse pour les patients là. Je ne suis pas là. Et j'ai appelé le médecin et j'ai dit, tu fais quelque chose, tu me vas aujourd'hui, sinon, je me souviens, j'étais au quatrième étage, j'ai dit, je me jette en bas du quatrième. Ça ne peut pas durer comme ça. Mon médecin s'en vient et tout ça, puis là, ben, wow, t'as peu, là, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est... Tu sais, il me suit déjà depuis un certain temps, donc il sait que c'est pas juste cet événement-là. Donc là, il fait comme, OK, gars, arrête travail pour l'instant, on arrête ça là. Et là, ben, ça avait suivi psychologue, psychiatre aussi pour ajuster la médication. Et finalement, le diagnostic est tombé, syndrome de stress post-traumatique. Et plus qu'on pèle et qu'on cherche dans la cause, mais ça remonte à dans l'armée. Mais je suis à ce moment-là, les boîtes s'ouvrent dans mon cerveau et je suis capable de tout lui déballer. Fait que là, il fait comme, OK, on a du travail à faire. Mais officiellement, t'as un syndrome de stress post-traumatique depuis, à ce moment-là, ça fait 13 ans que je vis avec, mais que je comprends pas ce que j'ai. Si vous saviez juste le fait d'avoir le nom sur ce que je vis, je ne suis pas folle. Parce que oui, j'ai été traitée de folle. Tu sais? Et c'est ça, mon employeur du moment, même si je lui envoie le... Non, rire encore plus, je travaille dans un hôpital. J'appelle, je suis en arrêt de travail. Syndrome de stress post-traumatique. Ben, tu viens me porter ton papier. Je suis pas capable de rentrer dans l'hôpital. Je vais te le faxer. Non, faut que tu viennes me le donner en main propre. Ben, sors de l'hôpital, je peux pas rentrer, je suis pas capable. Si tu viens pas me le porter, t'es dehors.
Ça, c'est un directeur, ça, ou ton supérieur?
C'est le service santé de l'hôpital.
Pourtant, il...
Service santé.
Service santé, oui.
Ouais. Ouais, mais en toute honnêteté, t'as beau travailler dans un hôpital, tu n'as pas le droit d'être malade. Ils ne comprennent pas. C'est la pire place pour être malade, c'est un hôpital.
J'aurais cru le contraire. J'étais pour te demander si tu avais eu un bon support parce que tu étais dans le domaine. Puis non.
Ben en fait, j'ai donné le papier à un collègue qui était là. Et le collègue est allé porter le papier. Ça reste comme ça. Et un jour, je reçois un appel. Si tu rentres pas, t'es dehors.
OK.
Prends automatiquement, à partir d'aujourd'hui, en date immédiate, je donne ma démission. Moi, c'était pas vrai que j'allais rester là, dans ces conditions-là. Je le sais que j'aurais pu me battre et avoir, en tout cas, mais à ce moment-là, ma santé mentale est précaire, je préfère donner ma démission et m'arranger autrement. C'est ça.
Je t'écoute, là, puis... Moi puis Marc, on sait que le courage, ça existe pas vraiment. Là, t'sais, on utilise le mot courage, là.
De la résilience.
C'est de la résilience. Merci. Tu me voles mes mots, là. Et puis c'est de la résilience, puis de la détermination, surtout, mais beaucoup de résilience. Parce que j'écoute ton parcours, là, puis écoute, c'est. Tu offres des soins palliatifs un peu pour. Quand on dit qu'on est on est blessé intérieurement, des fois de partager avec des gens ou d'aider des gens, ça nous fait du bien aussi.
Hein? Oui, ben les soins palliatifs, c'est les soins de fin de vie dans le fond. Donc mm-hmm. Moi, je les accompagne jusqu'à la fin. Mm-hmm. Et pour vrai, c'est j'adore ça. Pour moi, c'est une chance de pouvoir faire ça. C'est encore aujourd'hui, j'en fais quelques-uns mm-hmm. parce que j'ai plusieurs employés. Mais malgré ça, je ne suis pas l'employeur qui reste dans le bureau. Je vais faire des soins pareils parce que ça me fait du bien et je sais que je fais du bien aux gens.
Mmh.
Et c'est ça. Dans le fond, en 2016, je suis partie. Je suis allée dans une petite résidence privée. Jusqu'à juin l'année passée, où ce que finalement, ça fonctionnait pas. En 2017, mon syndrome de stress post-traumatique a été reconnu, donc là, les services sont plus en branle.
Mm-hmm.
Mais pendant ce temps-là, ben, on rouvre un peu les blessures et tout ça, donc mon syndrome de stress post-traumatique rouvre et j'ai décidé, mon bien-être et tout ça, avec le médecin, je suis pas la seule qui a pris la décision, de me remettre en arrêt de travail. Et à ce moment-là, j'ai donné ma démission et j'ai décidé de me consacrer 100% à mon entreprise.
Okay.
Vu que je la faisais de la maison, j'avais pas le stress de tout le temps être sur mes gardes et tout ça. Ça, je vais en revenir un peu plus tard sur les symptômes et tout ça que les gens avec post-traumatique peuvent vivre.
Mm-hmm.
Je suis beaucoup impliquée, je veux dire, dans le monde militaire, je suis toujours restée militaire, vétéran et tout ça. Et depuis que je connais le terme qui est syndrome de stress post-traumatique, je suis allée pas m'impliquer, mais tu sais, je fais partie de plusieurs groupes dont SSPT chez les camionneurs, que j'ai connu Karine. Et c'est ça, dans le fond. Donc, à la fin de l'année passée, ben j'ai toujours aidé les gens. De nature, j'aide les gens. Les gens ont besoin de parler, je suis là et tout ça. Mais à la fin de l'année passée, je me souviendrai toujours le 29 décembre, il y a à peu près 14 heures dans l'après-midi, quand j'apprends le décès de quelqu'un de la communauté, un peu comme aujourd'hui, vous avez annoncé le décès de Marc Thibault. J'ai appris ce décès-là et j'ai fait comme non. Ça, encore une fois, c'est comme si ça avait tilté dans ma tête, mais un tiltage positif, si je peux dire, dans le sens que non, c'est pas vrai que parce que lui a pas eu d'aide, qu'il méritait de mourir et tout ça, c'est pas vrai, faut faire quelque chose. Donc, on est le 29 décembre et le 2 janvier, j'ai ma nouvelle entreprise qui est partie ici et maintenant par Jess 15.
Oui, j'ai vu ça sur Facebook.
Et dans le fond, j'accompagne les gens. J'ai décidé d'officialiser ce que je faisais officieusement.
Écoute, oui. Jessica, tu as, si j'ai bien noté, tu as 31 ans.
Oui.
Je regarde ton parcours, là. Puis, écoute, je suis rarement impressionné, là. Mais je regarde ton parcours de difficultés que tu as eues. Et défis.
T'as que la pointe de l'iceberg.
C'est que la pointe de l'iceberg. Je sais que ça va être, on va avoir une deuxième partie assez rock'n'roll, excuse-moi. Mais avant d'arriver à ça, écoute, moi, je suis impressionné, OK? Par ton parcours, par ton implication dans l'humain, malgré tous les défis, les douleurs que t'as eues, les blessures. Tu sais, on parle de santé mentale, puis tu sais, je regarde, puis je suis pas tellement impressionné par le peu de support que t'as eu d'un côté comme de l'autre, parce que la santé mentale, tu te coupes un doigt, là, ça saigne, ça paraît, tu vas à l'hôpital, mettre un pansement, si tu t'as pas perdu le bout de ton doigt, là, tu sais, c'est, ils vont te faire des points de suture, puis, mais, tu sais, ça paraît.
Oui. J'arrête de me faire tatouer dans le front.
Oui, c'est malheureusement. Puis toutes ces blessures-là, c'est tu te coupes. Je reviens encore avec l'analogie. Tu te coupes un doigt, tu t'es fait faire un 4 points de suture. Puis là, 3 ans après, tu disais, regarde, ce doigt-là, je me le suis coupé. Regarde les 3 points de suture. Tu sais, mais je m'en suis sorti, ça a super bien été parce qu'on avait un hôpital qui m'a aidé. Tu sais, dans la santé mentale. Tes blessures, tu les soignes au mieux que tu es capable de faire, par toi-même, bien souvent, parce que le support, hein, Marc?
On est souvent mieux servi par soi-même quand on a... Oui. Le fait que, comme tu fais, ce que j'entends, puis ce que Sylvain parle, puis ce que je peux constater de ce que tu dis jusqu'à maintenant, c'est que tu t'impliques, mais en t'impliquant comme ça, ce qui est merveilleux, c'est ça, c'est que ça nous aide un peu beaucoup à... Même à, quand on a vécu des syndromes, des post-traumatiques ou quoi que ce soit, des blessures antérieures ou quoi que ce soit, hein, ça nous amène souvent à quand on parle aux gens puis on écoute, voyons les témoignages des gens, hein, des fois ça nous ramène puis ça nous fait du bien parce qu'on se sent pas seul premièrement.
On se sent pas seul, puis on se sent compris parce que la personne en avant de toi a vécu quelque chose qui est pas nécessairement la même chose, mais elle a passé par ces étapes-là.
Mm-hmm.
Tandis que souvent les psychologues, médecins ou quoi que ce soit, excusez-moi le terme, mais sont vierges de tous ces traumatismes-là, tu sais. Ouais.
Vierge, puis...
C'est ce qui est merveilleux, puis, ouais. Juste pour conclure, là, l'émission de radio que je co-anime avec Sylvain, c'est un peu ça, ça, en tout cas, moi, personnellement, ça m'aide beaucoup, parce que j'entends des témoignages, puis j'entends des gens nous confier, puis, tu sais, ça prend beaucoup de d'humilité, puis de, comme on disait tantôt, de résilience, et puis souvent, on tire un avantage à tout ça, puis c'est ça qui est merveilleux. Parce que ça nous donne un bon coup de pouce pour continuer notre chemin, puis aller où on veut aller, puis planter des nouvelles graines, oui, comme on dit souvent, moi aussi, Sylvain.
Ben, c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on fait, moi et Marc, là. Tu sais, on offre des thérapies, on fait de la radio, puis j'ai souvent des aidés ici que je reçois à la maison parce que j'ai pas d'entreprise parce que c'est pas un revenu pour moi, là. Tu sais, je fais ça les soirs, les fins de semaine.
Mm-hmm.
Puis les aider ça, puis ils disent tu me fais tellement de bien, puis moi je leur réponds tu me fais autant de bien parce que à communiquer avec ces gens-là, à comprendre l'humain, on se comprend un peu plus, puis on va chercher un peu plus d'humilité parce que on dit toi t'es thérapeute, je suis pas thérapeute, j'ai une formation de thérapeute. Le thérapeute ça définit pas ma personne en tant qu'être humain. Je suis là pour aider, puis c'est ça qui me permet d'avancer, justement, c'est de pouvoir aider les gens, mais en retour, je me fais aider autant par eux autres aussi, là.
Exactement. Je ne suis pas thérapeute, je suis moi et j'accompagne les gens.
Et voilà. Nous, on est clair. Là, tu sais, tu dis, t'accompagnes. Oui, Marc, on accompagne, mais on est un peu comme une lampe de poche. On est clair. Puis j'aime ça me définir aussi. Pas me définir, mais ben, me définir un petit peu comme un... Excusez-moi, c'est mon élan de grippe, mais de me définir comme un jardinier. C'est-à-dire que je plante des graines, puis j'arrose. Puis à chaque fois que je vois mes aidés, j'arrose encore un petit peu plus. Puis à un moment donné, si le terreau est fertile, ça fleurit. Puis je pense que c'est un petit peu ça que tu fais aussi avec tes aidés, là, tu sais.
Oui, exactement.
Puis, peut-être pas dans ces mots-là, mais moi, je le vois qu'on est tous des jardiniers, ceux qui travaillent dans l'humain, justement. Ça fait, oui, on fait du bien aux gens. On espère sincèrement d'aider les gens, les accompagnant, de leur faire du bien. Ça leur appartient de savoir si ça leur fait du bien ou non. D'accord? On les accompagne. On espère que ça leur fait du bien. Mais une chose est certaine, c'est pour nous, dans le chemin qu'on fait, dans le cheminement, je pense que ça nous fait vraiment du bien aussi. Ça nous fait grandir. Ça nous ramène à nous. Ça nous ramène à nos blessures, oui. Ça nous ramène à nos cicatrices parce que je t'écoute, Jessica, puis écoute, on va le voir en deuxième partie. Les blessures que t'as subies, t'as des cicatrices internes, puis ces cicatrices-là, quand t'as trop de pression à l'interne, ben ils finissent par rouvrir. Tu sais, c'est un peu comme si t'avais un doigt, puis t'as un doigt qui est à peine guéri, puis tu tapes toujours sur le même doigt, la blessure va finir par rouvrir, puis ça va saigner. Mais à l'intérieur, on ne voit pas ces blessures-là. Là. On les voit pas, ces cicatrices-là qui sont pas guéries. Puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. Puis en partageant nos douleurs, ben on apprend celle des autres, on ramène le malheur des autres vers nous, parce que c'est pas ça, c'est on veut être sympathique et non pas empathique. On veut pas être empathique.
C'est l'inverse.
Empathique. Merci Marc. je le sais. Il faut être empathique.
Juste te le rappeler des fois que.
Oui, sympathique, ça veut dire qu'on vit la douleur. On veut pas vivre la douleur de la personne. On veut être en empathie avec cette personne-là.
Mais on lui laisse.
Mais ça nous ramène à une empathie envers nous-mêmes aussi, puis d'accepter les douleurs puis les souffrances qu'on a envers nous, puis d'essayer de trouver notre propre chemin puis notre propre pas rédemption, mais notre propre guérison. Pardon?
Rédemption, c'est. Ouais, rédemption, ça dépend qu'est-ce qu'on a fait là.
Ben moi j'ai tous les mauvais coups que j'ai faits là, j'essaie de me les par.
Ok.
C'est ça. Mais je dis de.
Tu commences à me faire peur, Sylvain là.
Non, on en parlera dans une autre émission, Marc. Okay. Ben, c'est ça. C'est de trouver nos propres guérisons dans le fond parce que si je regarde le service de santé puis je regarde les forces armées, c'est pas là que tu as eu la force de d'aller de l'avant puis de tenter de trouver, tu l'as dit toi-même, de mettre un nom sur le bobo. Puis là, ça t'a permis par la suite d'avancer. Là. Il reste à peine, jusqu'à il reste à peine 30 secondes. On a déjà la moitié de l'émission de fait.
Parfait.
Ça passe vite. Et puis, on va passer à la pause, une courte pause. Puis, on va reprendre par la suite. Parce qu'écoute, ton chemin de vie, là, moi, je me répète, là, je le trouve vraiment impressionnant pour une femme de 31 ans, là. Ce que tu as vécu, puis ce que tu donnes, ce que tu as donné, ce que tu donnes encore. Je suis certain que c'est pas les derniers dons que tu vas faire de ta personne. Là. Écoute, on en reparle au retour.
Hey, c'est le beau micro. Tu veux commencer ta journée du bon pied? Ben viens à radiomediaplus.ca pour le show de 6 à 9, 6 heures, on décolle. Tout en bonne humeur, nous, on va te parler de circulation, des temps de douane, de la météo, des sports, de l'actualité et de la culture, et plus encore. Bien sûr, je suis pas seul. J'ai mes deux acolytes, Annick Lafont et Marc-André Martin. Alors, pour des matins toujours ensoleillés, la journée, c'est avec nous qu'il faut la commencer. 6 heures, on décolle sur radiomediaplus.ca.
Vous cherchez un véhicule, mais vous ne voulez pas passer votre vie à payer? Petit conseil d'amis, achetez un véhicule d'occasion et achetez-le chez AutoCB. Le plus gros centre intérieur de véhicules d'occasion à moins de 15 000 $, avec plus de 300 véhicules de grande qualité en inventaire, tous inspectés. AutoCB, c'est plus de 40 ans en affaires, une expérience d'achat incomparable et une grande salle de montre ultra moderne. Aucun dossier de crédit refusé et plusieurs véhicules disponibles à 0 $ comptant initial. Pour un véhicule d'occasion dans le Grand Montréal, l'incontournable est AutoCB. À Montréal ou sur autocb.ca.
On voyait
Bonsoir. Ben écoute, on est de retour, Marc et Jessica, on est de retour de la pause. Écoute, ce que je disais pendant la pause, c'est que je suis rarement impressionné, moi, par les gens dans la vie, parce qu'on fait tous quelque chose qui nous touche à nous. Écoute, la vie, c'est l'être humain est un peu égoïste. On fait toujours des choses pour nous-mêmes, là. Mais de rencontrer une invitée de 31 ans avec son parcours, avec toutes ses blessures, puis d'être capable de donner autant, perso, ça m'impressionne. Puis c'est pas parce que ça m'impressionne de dire « Ah là, c'est génial », non, c'est de savoir qu'une personne qui peut avoir autant de blessures peut autant aider d'autres êtres humains dans son cheminement de guérison. C'est un peu ça, hein, Jessica?
Exactement, oui.
Puis ce qu'on disait, tu sais, je disais que quand tu es infirmière, tu fais des choix d'infirmière. Tu peux choisir probablement, tu sais, c'était, comme moi je disais, j'ai une belle fille qui est infirmière urgentiste. C'est un choix, tu comprends? Parce que tu peux être infirmière X puis infirmière urgentiste. Moi, je dis, bon, ben, c'est parce que tu t'attends à avoir des monstruosités, des accidents graves et tout ça. Toi, tu as fait le choix volontaire d'accompagner des gens dans les soins palliatifs, c'est-à-dire dans leur dernier moment pour les accompagner vers la mort.
Exactement.
Qu'est-ce qui fait que c'est pas tout le monde qui peut faire ce cheminement-là, premièrement. C'est d'accompagner les gens vers la mort, puis de voir la mort comme une fin ou une continuité, ou tu comprends? Mais j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi tu as fait ce choix-là spécifiquement.
Ben en fait, moi, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai pas peur de la mort. Comme je disais, quand on fait le choix de devenir militaire, on fait le choix d'être déployé, d'être possiblement blessé un jour et possiblement même perdre la vie. C'est un choix que j'étais prête à faire et je l'ai fait. Donc moi, la peur est pas là. j'ai pas peur de la mort et tout ça. Donc c'est ce qui me différencie un peu des gens. Des autres infirmières et tout ça, j'ai vraiment, ça me fascine en fait. Je suis pas fascinée par la mort, mais ça me fascine de les accompagner vers là. C'est pour moi, je les amène vers une délivrance.
Mm-hmm.
Donc c'est, oui. Puis ils m'apportent tellement plus que ce que moi je peux leur apporter, même si pour eux je leur apporte tout ce qu'ils ont besoin, mais la sérénité qui se dégage de tout ça et tout, là, c'est juste fantastique.
Moi, je suis d'accord que quand on aide les gens, moi, j'ai pas fait des soins palliatifs, là, mais quand on accompagne les gens, on retire beaucoup en tant que personne aussi. On apprend à se connaître un peu plus. Puis de dire que ça nous apporte plus que ce qu'on donne, je pense que c'est vrai aussi. Dans notre cœur, on le sait que ça nous apporte beaucoup. On le dit pas pour se valoriser. Il n'y a aucune valorisation, je pense que quand on est dans l'humain et qu'on aide l'humain, il n'y a aucune valorisation là-dedans. C'est notre cheminement personnel. C'est notre mieux-être. Puis,
c'est que ça vient me chercher mes valeurs et tout ça.
Tu parlais tantôt de sérénité, puis c'est en plein, je pense. Quand on approche la mort, je crois bien que en processus, en soins palliatifs, c'est ça, on a le... En tout cas, on souhaite souvent, je crois, en tout cas, je sais pas si tes expériences ont été proches, t'as été près de des personnes avec qui que tu soignais, ou c'était juste, est-ce que tu as vécu des relations, c'est pas ça que je veux dire, mais...
Il y en a que je connaissais depuis plus de 2 ans.
Ah oui, OK.
Oui.
Puis, où tu t'impliques, c'est-tu avec les anciens combattants aussi, ou c'est juste...
Entreprise, c'est la Maison de l'Ange Gabriel. Elle est reconnue par la Croix-Bleue, donc oui, j'ai déjà aidé aussi des anciens militaires et tout ça, mais je ne suis pas que avec eux. Je suis ouverte à tous.
Okay. Oui. OK, fait que en disant, c'est ça que je voulais dire tantôt, là. Quand on approche la mort, c'est sûr qu'on devient, on approche aussi la sérénité parce qu'on sait que c'est la fin. Puis on se demande un petit peu qu'est-ce qui va se passer après. Mais des fois on est comme dans le néant encore là. Mais
il y en a qui veulent pas partir, mais je réussis à les calmer, à les apaiser pour que ça se fasse en douceur.
Oui.
Oui. C'est je pense que c'est je serais pas capable d'expliquer cela, mais c'est comme si c'est un don que j'ai, je suis capable de les apaiser, de les amener vers ce chemin-là. En fait, moi, je leur dis que c'est toujours leur dernier voyage, donc je les accompagne dans ce dernier voyage-là vers une destination inconnue. Comme ça, je leur laisse le choix de la destination. Mais c'est comme si je prépare les bagages avec eux pour qu'ils puissent partir.
Oui. Tu me disais que tu avais eu plusieurs entreprises.
J'en ai deux.
T'en as deux. La première?
La maison de l'Ange Gabriel, celle-là qu'on parle présentement avec les soins. Et j'ai ici et maintenant par Jessica Hines, où ce que j'accompagne les gens qui ont vécu des traumatismes ou qui vivent avec le syndrome de stress post-traumatique, à retrouver une vie plus équilibrée. Parce qu'on se le cachera pas, c'est pas très équilibré quand on est dans ce syndrome de stress post-traumatique-là.
On va revenir au stress post-traumatique avant d'aller parce que tu prépares une conférence et tout ça. Je trouve ça hyper intéressant. Je vais garder la cerise sur le gâteau pour la fin.
Quand on garde un petit peu de temps pour en parler, c'est parfait.
Oh, oui, on va avoir le temps en masse. Juste une dernière question. Quand tu disais, ce que j'ai cru comprendre, c'était comme une genre de libération au moment où tu as été capable de mettre un nom sur le mal que tu vivais.
Ben, une libération sur un stress de plus de pas comprendre que tu vis, parce que tu sais, on se fait carrément traiter de folle. Et ben, on t'est dans la folle, c'est quoi là, t'es malade dans la tête là, tu sais. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, je le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des réactions anormales à une situation qui ne devrait pas déclencher ces réactions là. Donc oui, une fois que j'ai compris ce que j'avais, ça l'a pas enlevé mes symptômes et autres, mais ça l'a enlevé un poids sur mes épaules de me dire « Hey, je suis pas folle.
» C'est ce que je sous-entendais comme libération, c'est de savoir « T'es pas folle, t'es capable d'identifier ton mal, puis maintenant tu vas être capable d'identifier, on l'espère, des solutions ou sans médication, je sais pas si il y a des médications aussi, là.
Mais la médication est là pour aider. Tu sais, comme j'explique, on peut demander l'insuline aux diabétiques ou des choses comme ça. Mais, selon moi, et c'est là que j'amène l'aide que je peux faire, il y a d'autres solutions. Et c'est complémentaire. Jamais que je vais dire de ne pas aller voir ton médecin, de ne pas aller voir le psychologue, ou quoi que ce soit. Mais je t'amène des outils différents.
Complémentaire.
Oui, complémentaire et non traditionnel.
Ben, c'est bien. J'ai des aidés, moi, qui font affaire avec des psychologues puis de la médication. Puis ils viennent me voir, ça veut dire que ça doit leur faire du bien d'avoir une approche qui est différente.
Ben, je m'en cache pas. J'ai un suivi en psychologie et je prends de la médication aussi et c'est correct.
Je me suis blessé à l'aine, moi, puis j'ai marché avec une canne 4 mois de temps. Puis j'ai pas eu honte. Fait que de dire quand t'as une maladie mentale, de prendre t'as un problème, puis tu prends des médicaments, puis d'être suivi, t'as pas de mal là. Tu te blesses avec une canne, t'as mal, ta canne est là, puis ton médicament est là, puis quand ça va être fini, ben tu laisses tomber, tout simplement.
C'est ça. Mais à travers ça, tu fais des exercices, tu fais d'autres choses, c'est de la médecine non traditionnelle.
Oui, ben oui, effectivement. La SQDC doit être pas pire là-dedans. Non. Non. C'est mon gag préféré, mais je l'ai pas essayé. Peut-être pas là que je l'essaye en marche, c'est peut-être plus cool. Mais oui. Anyway. Je
peux même pas te le dire.
Mais c'est ça, c'est tout un cheminement personnel. Puis c'est sûr que les blessures, je le dis tout le temps, les blessures psychologiques. Les maladies mentales. J'aime ça qu'on trouve autre chose que le mot maladie mentale.
En fait, c'est pas une maladie. C'est un état ou un syndrome qui apparaît. Parce qu'une maladie, c'est curable.
Ouais.
Curable, ou en tout cas, pas toujours, là, mais là, c'est un syndrome qui apparaît.
OK.
Ou un état.
Est-ce qu'on peut espérer de guérir du syndrome du stress post-traumatique?
On réussit à apprendre à vivre avec.
OK.
c'est ce que je dirais. Mes symptômes ont diminué. J'ai ma boîte à outils. Okay. J'ai mes bons jours, mes mauvais jours, mais c'est là.
Tu apprends à vivre avec, puis d'accepter que tu as ça, puis que ça risque de prendre un certain temps ou ne jamais se guérir, dans le fond, c'est ça?
Exactement. Il y en a qui disent qu'ils peuvent guérir, ça dépend. Il y a plusieurs niveaux aussi.
Mm-hmm.
Comme je vais comparer une dépression, tu as une dépression légère, moyenne, sévère, ben c'est la même chose. Fait que ça dépend de quel niveau que ton syndrome de stress post-traumatique est.
Je pense peut-être un petit peu la clé, c'est d'accepter un peu plus que de penser guérir.
Exactement.
Si aller vers l'acceptation, ça, c'est aller plus vers être capable de vivre avec ce qui s'est passé.
Ben exactement. Je compare encore une fois avec le diabétique. Il apprend à vivre avec et au-delà de.
C'est ça.
Il peut pas y enlever, c'est là.
Mais c'est ça. Là, on parle de cicatrice, mais c'est ça. La cicatrice, elle va toujours être là. Mais si on met un pansement dessus, ben on peut. C'est pas pareil que si on accepte qu'elle soit là. Si on accepte qu'elle soit là, on la regarde. OK, t'es belle, t'es rose, t'es différente, mais c'est pas grave. J'accepte que tu sois là. Puis ça, je pense que ça adoucit. Puis on, ça, ça, on, en tout cas, je parle un petit peu dans mon expérience personnelle aussi à travers ça, là. Parce que comme je te disais toujours, moi ça c'est bénéfique dans mon cas de rencontrer des personnes comme toi là qui fait des témoignages puis qui aide là juste à faire le témoignage que tu fais aujourd'hui puis l'entrevue qu'on fait aujourd'hui avec toi, c'est super aidant pour tous les gens qui m'ont écouté puis c'est merveilleux là, c'est
les cicatrices que j'ai à l'intérieur font de moi une personne unique. Tu dis pas ça pour me lancer des fleurs?
Non, on comprend. Ça. On comprend, puis on est d'accord. En tout cas, moi, je suis pour ma part, je suis d'accord, puis je pense que Marc aussi partage.
Merveilleusement d'accord. Ouais. Parce que c'est en plein ça. Nos cicatrices sont uniques.
Mm.
Ça fait de nous des personnes uniques qui peuvent offrir... Mais tu sais, on dit unique, mais quand on entre un petit peu là-dedans, en tout cas, ma vision un petit peu de ça, on est moins unique, parce qu'on voit que on n'est pas seul à vivre des choses. Même oui, c'est différent parce qu'on est tous différents, mais sauf qu'on n'est pas seul à vivre des choses. Fait que ça nous enlève un peu cette unicité-là quand même, là. Mais oui, c'est vrai que.
Non, je comprends très bien ce que tu veux dire.
Je me sens moins isolé.
Moins isolé, mais spirituellement parlant, en tout cas, plus au niveau spirituel, là, c'est comme. Comme je me répète, mais on se sent pas seul, mais dans le fond, on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un, mais quand on est dans nos blessures et on est là-dedans, oui, souvent, on peut se sentir seul.
Effectivement. C'est là où ce que, d'ailleurs, c'est pour ça. Je vais enchaîner là-dessus, si vous me le permettez.
Oui, c'était mon prochain. Oui, ma prochaine question. Vas-y, t'attends ce moment-là, puis écoute, je sens que ça va être très, très intéressant.
Ben en fait c'est ça, le briser l'isolement et tout ça, le fait de se sentir seul. J'ai décidé, comme je parlais tout à l'heure, suite au décès de la personne de mon réseau, que c'était assez, que justement elle aurait dû avoir l'aide et elle ne l'a pas eu. Donc j'ai décidé de créer le premier congrès sur le syndrome de stress post-traumatique le 26 octobre prochain à Québec à l'hôtel Bonne Entente. Donc ce congrès là le but du congrès est de vraiment premièrement briser les tabous autour du syndrome de stress post-traumatique, faire de l'enseignement sur c'est quoi le syndrome de stress post-traumatique. Je vous l'annonce en primeur, c'est pas contagieux.
Oh, tant mieux.
Non, mais il faut quand même faire de l'enseignement. C'est quoi les symptômes? Si j'ai ces symptômes-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider à ce moment-là? Et ensuite de ça, c'est bien beau reconnaître le syndrome de stress post-traumatique. Sont où les ressources autres que les... T'sais, médecins, psychologues, psychiatres, c'est facile à trouver. Je vais avoir plus de 20 ressources différentes pour les gens atteints de syndrome de stress post-traumatique et leur famille, les proches qui les aident autour d'eux.
Parce que c'est vrai, souvent, ce que tu dis là, c'est vrai, les familles, parce que c'est comme le camionneur qui est décédé, là, ça va être sa famille autour qui va avoir besoin de c'est ça, c'est important. J'aime oublier la famille qui est autour de ces gens-là qui vivent des, puis souvent les gens qui vivent Karine qui nous parlait, l'émission qu'on a fait avec Karine, elle nous parlait souvent, elle, c'est son, son mari qui a vécu cette, oui. Un accident ou avec mort, une personne qui a vu qu'il s'est suicidé, je pense.
En avant de son camion.
C'est ça, oui. Puis c'est ça, tu sais, c'est un dommage collatéraux, c'est la famille au complet qui a vu.
C'est exactement, puis c'est pour des événements qu'on n'a pas choisi.
Ben c'est ça, en plus.
Effectivement.
Ça nous est imposé, puis c'est pas quelque chose qu'on devrait vivre. Tu sais, c'est... Comme tantôt je disais, c'était la pointe de l'iceberg de qu'est-ce que j'ai vécu. Juste pour... je veux pas faire la qui fait le plus pitié ou quoi que ce soit, parce que c'est pas ça que j'enseigne. Moi, c'est vraiment plus pour je peux vous comprendre. J'ai vécu agression sexuelle, violence physique, psychologique, violence conjugale.
Je regarde ta liste de conférences, là, mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton approche durant ta conférence.
Durant ce congrès-là?
Oui, ben c'est ça, parce que tu vas faire des conférences, c'est évident. Là. Je présume que tu vas faire une conférence dans le congrès.
Oui, il y a 6 conférenciers, je peux même vous les nommer.
S'il te plaît, oui.
Il y a Myriam Courbron, qui est une psychoéducatrice spécialisée depuis plus de 19 ans avec les gens atteints de syndrome de stress post-traumatique. Mmh. Elle, sa conférence, c'est « Tout se joue avant 6 mois ». Donc, c'est là qu'il est plus facile d'aller rechercher d'aller récupérer, si on peut dire.
Mm-hmm.
Ensuite, on a Cassandra Lebel, qui est une éducatrice spécialisée. Elle va plus parler comment jongler entre le syndrome de stress post-traumatique et la famille. Parce que, oui, c'est une personne qui est atteinte, mais ça déteint sur les autres.
C'est des dommages collatéraux.
Exactement. Ensuite, nous avons Claude Simard, qui est un ancien militaire lui-même, qui a toujours été impliqué au niveau de la santé mentale, au niveau des déploiements, lors des retours de déploiement de mission. Il a été aussi, il accompagnait les gens quand il y avait un décès. C'est lui qui allait rencontrer les familles, qui allait l'annoncer, qui faisait le suivi avec les familles. Donc, une très belle conférence. J'ai déjà vu cette conférence-là. Elle est fantastique. Ensuite, nous avons Isabelle Loignon, qui est une ancienne... je veux pas dire une niaiserie. Si je me trompe pas, c'est une ancienne pompière. Elle, c'est le syndrome de stress post-traumatique dans le monde de l'uniforme et de la santé. Faire de la prévention sur le suicide aussi, au travers de tout ça. On a SSPT chez les camionneurs qui vient faire une conférence. Et moi, je fais la dernière conférence de la journée. Elle est c'est en route vers une vie épanouie. Je partage mon histoire de vie, les outils que j'ai appris à faire avec, et que c'est possible de retrouver une vie épanouie par la suite en apprenant à vivre avec et au-delà du syndrome de stress post-traumatique.
Si je comprends bien, ton approche, elle est très simple. Tu expliques qui tu es puis ce que tu as vécu.
Exactement, et voici les outils que je vous offre.
Les outils, tu les as développés, tu les as acquis?
Il y en a que j'ai acquis, il y en a que j'ai développés. Avec mon entreprise ici et maintenant, j'ai mis sur pied un programme d'accompagnement de 12 semaines. Cela, je l'ai vraiment monté sur pied complètement. C'est un programme... Je vais comparer un petit peu au AA, même si on parle pas de la même chose, mais la différence entre les psychologues et les AA, c'est quoi, selon vous?
La différence entre les psychologues et les AA?
Dans leur façon de faire.
Ben, ils n'offrent pas d'outils, vraiment. En tout cas, personnellement, tu as un cheminement, tu as les 12 étapes des AA, mais je considère que c'est pas c'est juste
du partage.
C'est du partage, l'écoute, c'est tout, là.
Bon, ben je vais vous amener l'autre point que moi m'a allumé plus.
OK.
Quand on va chez le psychologue, tu rentres là, psychologue, médecin, whatever, là. Tu rentres là, tu dis ce que tu as à dire, tu ressors. Faut que ça l'attende au prochain rendez-vous s'il y a quelque chose.
Exact, puis t'as pas d'outils.
Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas rien. Tandis qu'avec les AA, ou les programmes comme ça, s'il y a quoi que ce soit, t'as quelqu'un que tu peux appeler, tu peux jaser avec.
Un parrain, oui. Vu de ce côté-là, oui.
T'offres avec ce programme-là. C'est un programme de 12 semaines, mais en tout temps, ils ont accès à quelqu'un. Ou si c'est pas dans la seconde près, tu sais, c'est dans la même journée, ils ont quelqu'un à parler, C'est vraiment un accompagnement personnalisé que j'apporte.
Ça, c'est je voulais juste faire un petit retour, Sylvain, c'est les AA versus les psychologues, là.
Mm-hmm.
Moi, je suis allé dans les DA, c'est dépendant affectif anonyme. Ça, c'est comme la mère de toutes les dépendances. C'est comme quand tu vis une dépendance affective, tu tires souvent vers les narcotiques, drogue, l'alcool, le jeu, qui est toutes ces dépendances-là, on appelle ça des compensations. Là.
Mm-hmm.
Mais tu sais, dans ces mouvements-là, Sylvain, là, il y a c'est différent des psychologues, mais il offre les douze étapes, là, oui, c'est sûr. Mais il y a plus encore. Tu rencontres des gens, tu as un contact humain avec les gens.
C'est plus là que moi j'ai reproduit.
Parce que moi, personnellement, il n'y a pas d'outils en tant que tels qui vont nous offrir là-bas, mais le contact humain que tu as avec les gens, est-ce que c'est un départ avec quelque chose d'autre, tu sais? C'est ça que moi j'ai adoré quand je suis là, parce que j'étais personnellement vraiment à terre, comme on dit là. Je suis allé à la réunion, puis ça m'a fait du bien d'entendre les gens parler, donner des mains, voir que des gens vivent des choses aussi, ont aussi des cicatrices comme on parle avec Jessica depuis le début de l'émission, qu'on n'est pas tout seul.
On n'est pas tout seul.
Qui souffrent, puis il y en a d'autres qui sont là pour aider, puis s'entraider, puis c'est ça qui est trouvé merveilleux.
Le point fort que Jessica a soulevé dans les AA, c'est justement le parrain, le fait que tu peux parler à une personne n'importe quand. Ouais. Dans les réunions des AA, ben, c'est juste de partager ton expérience, tu comprends?
Oui. Sylvain, ça va plus loin que ça. La façon que je vois ça, c'est parce que tu dis juste, mais quand tu le vis pis t'es là-bas, là, ça fait tellement de bien. Fait que dans ta tête, là, en tout cas, tout dépendant de ce que t'es rendu, puis si tu vas là, c'est parce que tu te sens seul, c'est parce que t'es déprimé, c'est parce que t'as besoin
d'être reçu aussi. Ça, j'ai vu quand dans les rencontres, c'est d'être reçu. Il n'y a pas de jugement. Tout le monde est...
C'est justement.
J'ai vu dans toutes les couches de la société, des médecins, des travailleurs, toutes les couches de la société.
C'est ça. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de...
Exact.
Quand tu es rendu là,
quand je dis juste, c'est un petit peu injuste, mais de dire, tu vas à une rencontre, oui, ça t'amène quelque chose. Oui. Tu partages avec des gens sans jugement, puis de toutes les couches de la société. Mais c'est la suite là où ça va être peut-être plus utile encore, comme tu l'as dit, Jessica, d'avoir des gens qui vont pouvoir t'écouter au moment où tu en as besoin. Là.
L'exemple était peut-être pas le meilleur exemple, mais pour moi, je parlais même pas des étapes ou quoi que ce soit, c'était plus l'accompagnement que je voulais représenter. Et c'est aussi ça, cette raison-là, que j'ai mis sur place le congrès qui va avoir lieu le 26 octobre à Québec.
Mais au-delà du congrès,
excuse-moi, juste conclure, juste parce que c'est important parce que là on parle à beaucoup de gens, puis il y a des gens peut-être qui vivent des difficultés, puis c'est important de dire Léa, c'est quelque chose qui fait longtemps qu'il existe, puis il est important que ça continue d'exister, puis que ça fait du bien à des gens. Puis tu sais, s'il y a des gens qui vivent des difficultés, tout ça, allez-y, ça peut vous faire du bien, il y a des réunions à chaque semaine. Tout a son importance quand même, là.
Ben écoute, les narcotiques anonymes ont copié le principe. Il y en a beaucoup qui se sont inspirés des AA, là.
Oui.
Tu le dis même toi-même, Marc, il y a beaucoup d'organismes d'aide aux gens qui sont en difficulté qui se sont fortement inspirés des AA, là. Quand je dis juste, c'est un petit peu injuste de ce que j'ai dit, mais je veux dire, pour moi, je m'arrête à juste la première vision, tu dis « OK, c'est beau ». Mais c'est tout ce qu'il y a derrière, parce que celui qui m'avait invité, c'est un parrain, justement, puis il m'a amené ailleurs, tu sais, mais la réunion, j'ai dit, je suis pas sûr, il dit, je vais t'amener ailleurs, tu sais, puis il m'a amené ailleurs, puis effectivement, ce que Jessica disait, c'est justement tout le d'avoir quelqu'un qui va t'écouter, qui va t'accompagner, puis tout ça.
Parce qu'on est... On n'est pas tous dans le même état quand on arrive là, hein?
Non, tout à fait.
Ça aussi avec.
Il y en a que ça va sauver leur vie.
On n'est pas tous à la même place.
Puis on n'est pas tous prêts à accepter non plus où on est présentement non plus. Tu sais, dans notre cheminement, il faut accepter qui on est, puis où on est, puis pourquoi on est là. Puis après ça, on peut cheminer. Tout est dans l'acceptation, hein. Ben, écoute. Je vais revenir parce qu'il reste 2 minutes. Jessica, c'est le congrès SSPT à Québec.
En fait, si vous cherchez sur Eventbrite pour acheter vos billets, congrès syndrome de stress post-traumatique, qui a lieu à l'Hôtel Bonne Entente le 26 octobre qui s'en vient. Les billets sont au coût de 30$. Le stationnement est inclus. Vous allez avoir plein de ressources sur place. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur qu'est-ce que je fais et tous les autres événements à venir, vous pouvez aller au www.ici-et-maintenant-jh.com. JH pour Jessica Hines. www.ici-et-maintenant-jh.com. Les billets sont en vente sur les deux plateformes, soit Eventbrite ou sur le site Internet.
Écoute,
à tous.
Je vais partager allègrement ce lien-là pour les billets. Je vais l'ajouter sur le site aussi de thérapierealiste.com. Mais dans mon Facebook de Sylvain Personnel, Sylvain Vanier Personnel et Sylvain Vanier Thérapeute, je vais me faire un grand plaisir, dès la fin de l'émission, de partager ton événement, de partager le lien pour acheter des billets aussi, parce que, écoute, ce que tu fais, je pèse mes mots, c'est grandiose. De partager notre temps. Écoute, tu sais, de donner 10$ à 20$ à une cause, ça se fait, c'est relativement facile. De donner son temps personnel, c'est quelque chose qu'on pourra jamais récupérer, hein. Puis c'est pas le but de les récupérer, on le donne, puis le temps qu'on donne personnel, ça a une valeur inestimable pour moi.
Je suis très d'accord avec ça.
Je te remercie, écoute, je te remercie mille fois, il reste à peine 30 secondes avant la fin de l'émission.
Merci pour l'invitation, c'est très apprécié.
Écoute, pour nous là, ce soir, là, je pense que Marc va être d'accord, c'est un cadeau que tu nous fais ce soir.
Ah oui,
de savoir qu'il y a des gens de ton âge qui ont tant de blessures et qui peuvent partager autant, pour nous, c'est un cadeau.
Vas-y, continue.
Oh oui, ça c'est sûr, t'es bien parti pour l'humain. Écoute, je te souhaite longue vie, une très bonne santé, et que tu puisses utiliser tes dons, parce que c'est un don que tu as, de le partager allègrement puis sans limite. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Puis merci d'avoir été avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir Marc. Bonsoir Yves.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jessica. Puis là, je trouve que c'est ton travail.
Les pensées sont avec tout le monde en ondes.
Super.